Bienvenue dans le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode, le talk show dans lequel je vous offre chaque semaine, accompagné d'un invité, une synthèse de ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le monde de la mode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le News and Analysis de Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Viviane Lipskier. Elle est la fondatrice de Brand Alchemy. Elle est l'experte DNVB en France et accompagne les marques à repenser leur business model dans l'économie directe ou consumer. Et elle est l'auteur du livre que j'imagine que vous avez tous lu, DNVB, les surdoués du commerce digital. Bonjour Viviane, comment ça va ?
Salut Adrien, comment ça va toi ? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu,
bah ouais,
tout l'été
passé.
Ça fait
passé. Une éternité, exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, tu nous parles de RP dans le marketing mix.
C'est ça, exactement, dans le marketing mix des DNVB, c'est un sujet hyper important, puisqu'on en a déjà parlé en fonction de l'augmentation des coûts d'acquisition sur les médias sociaux. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes, on a observé un retour aux 5 grands médias publicitaires traditionnels, ouais. Presse, TV, affichage, radio, cinéma. Et on n'avait pas parlé d'ERP, et c'est ce mois-ci, ils retiennent toute l'attention. Pourquoi ? Parce que l'agence new-yorkaise Deris, qui est spécialisée justement en communication relations presse, a fait l'acquisition de l'agence londonienne Sample. Okay. Pourquoi ? Parce que les clients de la société Deris recherchent une croissance en dehors du marché américain. Et donc, elle a acheté cette agence qui appartenait à deux publicitaires assez connus, Georgina Whittaker et Naomi Metiner, et ça a tout de suite été rebaptisé Deris. Alors, il y a eu un nombre de retombées presse sur ce sujet qui était considérable dans le mois précédent, et ça a retenu toute mon attention. Pourquoi ? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Deris, Adrien ?
Je t'avoue que il me semble avoir vu passer un article sur LinkedIn, mais je connais pas plus que ça, tu vois.
Jesse Deris est le fondateur de l'agence Deris, a été l'avant-garde de la révolution direct to consumer. Il a commencé sa carrière dans la communication politique et puis dès 2008, il a commencé à travailler avec les fondateurs de Warby Parker. En fait, il avait un ami commun avec Neil Blumenthal, un des deux cofondateurs, et c'est lui qui leur a recommandé de travailler ensemble. Alors je rappelle que la marque Warby Parker, qui est une DNVB de lunettes, la DNVB de lunettes, a été lancée en 2010. Donc le travail préliminaire avait commencé vraiment 2 ans avant. Hein. Souvent on se rend pas compte, on se dit au moment du lancement peut-être ça a pris quelques mois, mais non là c'était vraiment un travail considérable. Et en fait l'ambition c'était de parler autrement, de communiquer avec la presse tout de suite. Et de trouver l'agence qui pourrait les aider. Mais ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il n'existait pas ce genre d'agence, en fait. Le métier des relations presse était très cloisonné. D'un côté, tu avais la presse qui parlait aux consommateurs, et de l'autre côté, tu avais la presse technique. Et comme tu le sais, et comme vous le savez tous, vous l'avez compris maintenant, les Digitally Native Vertical Brands sont des startups technologiques à la base. Elles font des produits de biens de consommation, mais elles sont des startups technologiques. Donc, il leur fallait parler aux deux médias, en fait, aux deux secteurs médiatiques. Et donc, c'est cette idée, en fait, qui a été à la base de la création de l'agence Deris, l'observation de Neil et Dave Blumenthal, les fondateurs de Warby Parker, et comment ils ont construit un nouveau modèle de communication avec les gens. En fait, ils ont créé une marque qui était très riche et très émotionnelle, très virale aussi. Alors, le produit était génial, mais c'était leur idée, ça, Deris le dit toujours, c'était leur idée d'inclure leur histoire personnelle, le récit de fondateur, dès le début, dans la marque. Ça, c'est des récits de fondateurs, des histoires de fondateurs, il y en a depuis toujours. Hein. Mais eux, ils ont trouvé une manière vraiment convaincante d'en parler et de l'incorporer à leur proposition de valeur.
Je pense qu'il y avait aussi un mammouth très clairement identifié contre lequel se positionner, non, à l'époque ?
Oui, et bien sûr, tu as tout à fait raison. C'est tout le génie qui a consisté à expliquer comment l'industrie fonctionnait et pourquoi c'était du coup logique dans le contexte que Warby Parker existe. Il y a toujours pas de raison précise, il n'y en avait pas, il y en a toujours pas, pour lesquelles, on l'a dit, un morceau d'acétate, et puis des verres optiques, et puis des connecteurs pour que tout ça tienne ensemble, doivent coûter $600 ou $900, plutôt que...
20 euros
que,
ou 10 balles.
Voilà.
Il n'y
a toujours pas d'explication.
Ouais.
Et c'est là que je trouve ça très intéressant. Alors j'ai regardé plein d'interviews, lu plein d'interviews, regardé plein de vidéos de Deris. Mmh. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que comme il venait du milieu politique, il a en fait dupliqué cherché à voir comment il pourrait intégrer les tactiques politiques dans cette communication. Et il dit, si tu regardes le fonctionnement de la politique et des campagnes électorales, le candidat qui gagne, c'est celui qui a le message le plus clair. Et en même temps, c'est celui qui définit son adversaire. Donc, en fait, il a fait de la politique de campagne. Et il a pris l'Usotica, le mammouth dont tu parlais tout à l'heure, une très grande entreprise dont la majorité des consommateurs ignoraient en 2010, 12, et puis je pense même encore aujourd'hui, n'en avaient jamais entendu parler, ne savaient certainement pas dans quelle mesure ils possédaient tous les leviers de l'industrie. Mais une fois que tu le dis aux gens, une fois que tu le dis aux journalistes de référence, que l'Usotica possède ou licencie toutes les marques de lunettes à peu près dans le monde, tout le monde a été surpris et ça a été extrêmement convaincant. Et en fait, c'est grâce à ce discours et au lien avec la presse qu'ils ont réussi à établir un lien avec les gens.
Je trouve que c'est hyper important ce que tu dis, de dire qu'il faut identifier, enfin, il faut avoir un message très très clair et identifier son adversaire très clairement. Comment tu le fais ça? Comment tu le trouves et comment tu fais en sorte que ça soit limpide et que tout le monde comprenne ton message?
Alors, c'est vrai que c'est la plupart du temps, il n'y a pas d'adversaire identifié dans la plupart des projets que j'accompagne. On ne voit pas tout de suite le problème, en fait. Et ça, c'est un vrai problème, en fait. Mmh. Ça veut dire que tout de suite, le sujet manque de corps. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas forcément de marché à adresser et puis pas forcément de vrai discours, fondamentalement de discours de marque. Alors, très, très souvent, dans les DNVB qui ont suivi, ce qu'on entend, c'est on va être environnementalement, sustainable, je ne voulais pas le dire en anglais. Ouais. Et puis, on va avoir le circuit court, direct to consumer, qui va nous permettre les marges, etc., et la transparence. Ça n'est pas un discours contre ça. Mmh. Ça, c'est la base aujourd'hui d'une entreprise qui veut se créer aujourd'hui. Mmh. Et l'idée, c'est que, en fait, on n'arrivera jamais à émettre un discours assez clair et intelligible en étant juste positionné de cette manière. Mmh. Mais justement, ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder dans les clients suivants de Deris. Donc, il y a eu, après Warby Parker, il y a eu Everlane. Donc, si tu regardes Everlane, ben, eux, très clairement, bon, c'était ce discours de se positionner en disant sur la transparence, justement, pas sur l'éthique, mais sur la transparence, en disant on n'a jamais montré derrière le behind the scene. Mmh. Si tu regardes leur client, avec le deuxième client qu'ils ont eu d'ailleurs, Harry's, la marque de rasage, là c'était aussi une industrie complètement opaque dans laquelle personne ne comprenait rien, où les prix des rasoirs étaient moins chers que le prix des lames. C'est bien connu dans les écoles de commerce, ça c'est ce qu'on appelle le modèle Gillette. Et à chaque fois, si tu regardes donc les marques qu'ils ont eu derrière, qu'il a soutenu derrière, il y a eu aussi par exemple Hims et Earth. Les deux marques d'hygiène entre guillemets pour hommes et pour femmes. Hims qui dont le premier produit était un produit qui était c'est un produit générique pour la repousse des cheveux, mais l'idée c'était de dire l'industrie pharmaceutique est trop chère, on n'y accède pas et en plus c'est très compliqué d'aller parler de ce genre de sujet avec son médecin, surtout quand on est jeune. Donc on va créer une communauté d'entraide autour de ce sujet. Donc tu vois bien à chaque fois lui on peut presque dire que c'est une recette qu'il a réussi à appliquer. C'est vraiment la secret sauce.
Mais par exemple, récemment, j'ai interviewé Julia Faure. Elle, je trouve que son message est assez compréhensible parce qu'elle dit « Nous, on se bat contre la surproduction, la surconsommation. » Et c'est qu'un seul message. Un bonne gueule, par exemple, lui, son message, enfin eux, leur message à Benoît et Geoffrey, c'est de dire « On fait de la pédagogie sur le vêtement. »
Oui, retour au produit bien fait.
Retour au produit bien fait.
Au savoir-faire.
Versus un asphalte. Pourquoi il est fort et pourquoi il a une traction, lui, aujourd'hui?
Parce que le seul, mais le meilleur. Le seul pull, mais le pull parfait. Le seul jean, mais le pull parfait. Et ça, il y a un vrai storytelling, il y a une vraie histoire. C'est pas exactement la même. Je pense que la recette de Jess Deris, lui, est très particulière. Tout le monde ne peut pas prendre la même recette, sinon ça serait juste, on n'aurait que des discours assez politisés. Mais on voit bien que quand le discours est justement politisé, il a une force supérieure. Il permet de créer des leaders charismatiques que plusieurs générations vont pouvoir suivre derrière. Et il donne une force dans le temps que n'auront pas les marques peut-être dont tu parles.
Très bien.
Moi, je leur souhaite de durer dans le temps. C'est le sujet, j'ai peut-être mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est que chercher à se positionner très clairement et à identifier un problème dans la société qui n'est pas que la sustainability, ça donne de la force au discours. Donc, pour revenir, tu vois, je pense que on peut résumer cette base narrative de Deris à « je crois que je me fais arnaquer par X », donc le mammouth identifié, alors j'ai lancé une marque pour résoudre ce problème. Tu vois, si tu t'attaques à toute la société en disant l'industrie textile d'une manière globale, c'est pas un adversaire clairement identifié pour les uns et pour les autres, c'est juste un mouvement de société, une envie de changement des consommateurs, globalement, à laquelle tu réponds, mais auxquelles toutes les marques doivent répondre aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est devenu presque une expression commune, en fait. C'est-à-dire que, à partir du moment où tout le monde pense quelque chose, mais ne l'a pas verbalisé, toi, la marque qui va le verbaliser, tu vas prendre une puissance incroyable. C'est comme ça que Deris a d'ailleurs contribué à faire décoller le modèle d'NVB. Voilà. Dès le début, il s'est positionné sur construire une marque et une stratégie de communication. Ouais. Et il a positionné donc un message simple, positif. J'insiste beaucoup là-dessus. Qui est suffisamment fascinant aussi pour être repris par les journalistes, parce que les journalistes, ils adorent ce genre d'histoire aussi.
Bien sûr.
Et puis donc, qu'il puisse être communiqué efficacement sur tous les canaux qu'elle peut construire, online, social media, mais aussi, donc on en a parlé, campagne d'affichage, out of home et installation interactive, etc. Et puis hors média, tout ce qui est hors média traditionnel, c'est-à-dire street marketing, événements, marketing direct en boîte aux lettres, etc. En fait, Deris, et j'adore aussi le vocabulaire qu'il emploie, il dit c'est de l'ubiquité intelligente. Il dit les meilleures marques construisent ces moments où elles sont partout à la fois en ligne et hors ligne. Et elles sont à l'aise pour raconter des histoires et elles le font à travers tous les canaux d'une manière coordonnée. Et l'impact, ça vient du sentiment qu'elles sont partout. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment de créer et d'amplifier ce qu'on appelle l'empreinte de marque et de construire ce qu'on appelle aussi une chambre d'écho. C'est-à-dire qu'une fois que tu as écrit ton histoire, ton message très clairement, le journaliste qui voit l'histoire, il pense que c'est intéressant, il le répète, il réécrit légèrement parfois, puis il t'appelle, puis il va écrire une autre histoire, et au fil du temps, ça augmente l'empreinte de la marque.
Trop bien. Et c'est la seule agence qui travaille de cette manière aux États-Unis ?
Alors c'est un modèle hybride, donc tu vois, avec à qui c'est parlé à la fois à la presse technique et à la fois à la presse consommateur. Il y a peu de concurrents encore, peu de gens étaient capables de le reproduire, mais il y a quand même une nouvelle vague d'agences ou des agences qui sont un peu transformées, qui promettent aussi une approche comme ça très holistique. Donc il y a par exemple Jennifer Bett Communication qui représente des marques comme StockX et Parachute. Ou Moxie Communication qui représente par exemple Casper et l'Archef Club. Et encore une fois, mais je vois que tu hoches de la tête, mais je veux le redire parce que je trouve que c'est pas suffisant le travail qui est fait aujourd'hui. Je crois que les jeunes entreprises doivent contrôler le message de leur marque depuis le début. Et il faut vraiment développer mieux les histoires et gérer la marque dès le premier jour. Si tu te permets d'être furtif, tu vois, et d'échapper à ça, en se disant le produit va faire la blague, tu vas laisser un vide dans ton récit et du coup il y aura toujours quelqu'un pour le tu pourras esquiver, mais il y aura toujours quelqu'un pour le remplir à ta place. Ça sera des journalistes, ça sera des anciens employés, ça sera n'importe qui dans les médias, Facebook, Twitter, etc. Donc que tu finisses ou pas à faire appel à une agence de RP ou que t'embauches quelqu'un en interne, en tout cas vraiment ma conviction c'est que stimuler l'effet de réseau, ça devient un avantage concurrentiel crucial.
Tu penses que toutes les entreprises devraient faire des RP ?
Oui, je pense que toutes les entreprises devraient faire des relations publiques, même si en ce moment, ta société, c'est juste toi avec ton ordinateur portable. L'important, c'est de comprendre dès le début le but des relations presse. Le but des relations presse, c'est pas de convaincre le journaliste des Échos ou de Marie-Claire d'écrire un article sur toi. C'est d'établir une relation à long terme avec eux et qui va améliorer ton profil à long terme. Et c'est d'abord de les connaître plutôt que de se faire connaître. Et je pense que c'est important de le faire depuis le début parce que quand tu veux communiquer sur un nouveau produit ou sur un jalon important de ton entreprise, si t'as pas communiqué sur ton lancement, on te connaît pas. C'est vraiment de la logique, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais là où il faut faire attention, c'est que du coup, ça te confère une responsabilité. Tu peux plus arrêter de communiquer. Parce que si t'arrêtes de communiquer, on va t'oublier. Et puis, dès que t'as communiqué, t'es sous le radar des journalistes. Donc, si t'oublies, ils vont remarquer que ton entreprise n'a rien annoncé depuis longtemps. Et du coup, ils vont penser que ta boîte va pas bien. Donc, en revanche, il faut pas être excessif non plus, tu vois, faut trouver la bonne balance. Parce que si tu communiques tout le temps, en fait, tu finis par filer des belles infos à tes concurrents. Mmh. Donc, parfois, ça a du sens aussi d'avancer dans l'ombre, tu vois, comme une marque comme Cézanne, par exemple, qui communique pas beaucoup en presse.
Plus beaucoup.
Plus beaucoup.
Elle a beaucoup communiqué à un moment, elle communique plus du tout.
Ouais.
Et elle est toujours dans un cabinet de relations presse.
Elle est toujours dans un cabinet.
Chez Dress Code.
Absolument. Absolument, mais elle maîtrise complètement sa communication, elle ne livre que ce qu'elle veut livrer au moment où elle veut le livrer.
Exactement. Et j'en parlais cette semaine avec Benoît Vojtanka de Bonne Gueule. Eux, j'ai l'impression, tu sais, eux, ils prennent la parole sur tous les événements aujourd'hui.
Oui, ils sont présents partout, oui. Justement, c'est marrant que tu me poses cette question. On va y revenir tout à l'heure, ouais. Tu vois, parce que
on
va en reparler.
Ouais.
Je vais te raconter, puis tu vas me dire, ah ouais, d'accord, c'est pour ça.
Ouais.
Alors...
Est-ce qu'il y a des agences comme Deris en France? Est-ce qu'il y a des gens qui sont aussi forts que Deris en France?
Enfin, justement, je me suis posé la question. J'en voyais pas émerger dans le scope. Et c'est vrai que la plupart des DNVB que je connais, soit ils font le travail eux-mêmes, ils ont en interne un chargé de relations presse, ou c'est le directeur du marketing qui s'en occupe. Ou
les fondateurs. Ouais.
Ou les fondateurs eux-mêmes, oui, bien sûr. Sauf dans la cosmétique où c'est beaucoup plus compliqué parce que le marché est tellement saturé qu'on a toujours besoin au lancement de la marque d'avoir des relations presse, mais chez Lucille Bataille par exemple, il y a une chargée des relations presse. Donc du coup je me suis dit je voulais pas répondre à la question dans le vague, donc j'ai posé la question à Teddy Lemaout du bureau Franck Drapeau, qui est une agence justement RP spécialisée en cosmétique, healthcare et food. Donc déjà, tu as une partie de la réponse dans la question, puisque tu vois que c'est une agence qui est spécialisée. Et il me confirme que le métier reste encore très cloisonné, chacun dans son domaine d'expertise. Et beaucoup d'agences travaillent encore à l'ancienne, au feeling, il me dit, surtout avec la presse traditionnelle. Et donc, on parle de RP et de IRP. Donc moi, quand je me suis dit IRP, on va parler de lien avec la presse en ligne. Non, le IRP en fait, c'est la gestion des influenceurs, influenceurs et influenceuses. Et ça, donc, il y a eu aujourd'hui, la plupart des agences travaillent avec les influenceurs. Donc pour Teddy, l'évolution, ça a été quand même de créer un discours plus émotionnel qui plaise aux journalistes. Voilà. Mais ce qu'il disait aussi, c'est que quand les startups arrivent au bureau de presse, en général, c'est qu'elles sont bien implantées et qu'elles ont trouvé leur cœur de cible. Et en ce qui concerne la cosmétique, donc c'est incontournable vu la saturation et l'usure des médias sociaux. Mais ce qu'il me disait, c'est que l'influence, parce qu'il y a beaucoup de travail d'influence sur la cosmétique, ça s'achète à des tarifs très conséquents et il n'y a pas toujours l'impact aussi important qu'on le souhaite. Au regard de l'impact de la presse, parce que même si la diffusion de la presse est en perte de vitesse, elle garde toujours un impact considérable au regard justement de l'achat de social media. Si tu regardes, et en plus que les versions numériques des médias traditionnels ont bondi, si tu regardes Madame Figaro, elle ou Marie-Claire, ils sont à un peu plus de 300 000 impressions exemplaires, 700 000 pour version Femina, Télé 7 jours, c'est 1 million d'exemplaires diffusés. Donc,
ouais, c'est énorme.
Ça, c'est les chiffres de la CPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Donc, ça reste quand même énorme. Et finalement, ça constitue effectivement un réservoir une bonne manière de se faire connaître. J'ai également interrogé Jérôme Piliol, qui est lui-même consultant en stratégie de marketing et de communication et enseignant à l'EFAP, où je l'ai connu, et à l'école Comte, entre autres. Et il me racontait qu'en France, les RP ont suivi trois phases d'évolution notables. Il y avait l'époque des agences classiques de RP, et puis l'arrivée du digital qui les a obligés donc à créer de nouvelles formes de RP, ce qu'on appelait les IRP, s'approprier des outils digitaux de masse, travailler des gros influenceurs de la communication massive. Et les précurseurs se sont spécialisés là-dedans. Et aujourd'hui, on entame une nouvelle phase avec une régression de l'influence et donc un retour aux médias traditionnels que lui ressent dans sa pratique. Mais il me dit, les médias aujourd'hui, les agences RP se réinventent plus ou moins timidement. Elles peinent à trouver quand même des différences. Il n'y a pas beaucoup d'innovation. Même si on peut pas faire de généralité à ce point, il y a quand même des agences qui sont plus créatives, qui réinventent le mix omnicanal, etc., et qui arrive à créer des passerelles entre le physique et le digital. Bon, force est de constater que les grosses agences sont quand même moins flexibles et créatives et qu'elles continuent à phagocyter les agences les plus impertinentes, puisque très récemment aussi, donc en septembre, Havas a pris 51% des parts de Buzzman. Il avait déjà pris des parts dans Rosa Parks. Et Yannick Bolloré, le patron de Havas, a dit dans cette transaction, le cœur de notre stratégie, c'est le conseil stratégique en communication. La création d'idées et la créativité au sens large inclut le content et l'entertainment. Autrement dit, des métiers à forte valeur ajoutée. Donc on voit bien qu'ils ont racheté des agences pour aller chercher la créativité, pour aller chercher la flexibilité.
Et alors, comment on choisit son agence RP ?
Excellente question. Alors, une prestation RP, déjà, qu'est-ce que ça va proposer ? En général, elle va te créer ton matériel, dossier de presse, communiqué de presse, liste média, cible, influenceur, blogueur. Elle va te rédiger des contenus pour le placement média. Elle va te faire une surveillance médiatique et du reporting. Elle va organiser tes interviews et elle va te chercher des opportunités de prise de parole, donc dans des interviews, des événements, des conférences. Et puis, elle va gérer les demandes des médias et répondre à leurs questions. Pour Jérôme, il me disait qu'il fallait chercher, si tu cherches une bonne agence, il faut chercher la prise de parole différenciante. C'est dans les attributions d'une agence de voir jusqu'où on peut décaler le discours pour ne pas rester dans la sécurité. Et je pense que c'est ce que Deris fait. Mais il me dit les agences qui challengent et qui provoquent la cible sont plutôt rares aujourd'hui. Tout le monde se réfugie dans une pseudo-sécurité digitale parce que ça rassure tous les clients. Et en général, on propose de l'influence, un dispositif pop-up, et tout le monde duplique le modèle, qu'il soit adapté ou pas, parce qu'il n'est pas toujours adapté. Et Teddy, lui, il me disait qu'il faut faire attention, parce qu'on ne fait pas deux fois son entrée en scène. J'ai trouvé que l'expression était très très bonne. Il ne faut pas se tromper. Il me dit, même si c'est une question de moyens, il faut trouver en face la meilleure expertise. Donc, si on cherche la meilleure expertise, je dirais que aujourd'hui, vu le cloisonnement dans lequel sont les RP, il faut trouver celle qui va répondre le mieux à ton industrie. Alors, il a quand même été très cool parce que, en fait, il m'a donné un tips pour sélectionner la meilleure agence et il m'a dit, le mieux à faire, c'est de contacter 2 ou 3 journalistes dans ton secteur et de leur demander à leur parler 2 minutes. Si tu leur vends rien, en général, ils répondent positivement et leur dire, voilà, j'hésite entre ces 2 et 3 agences. Laquelle, selon vous, correspond le mieux à mes besoins? Voilà. Et si vous cherchez le numéro, voilà, il dit, vous trouverez leur numéro dans l'ours des magazines.
Bien sûr.
Exactement. Donc, c'est assez facile. Donc, n'hésitez pas à solliciter les journalistes, non pas pour parler de vous. Voilà. Mmh. Exactement. Voilà.
Est-ce que tu peux nous donner une idée des prix? Qu'est-ce que ça coûte?
Alors, ça coûte assez cher. C'est des gros budgets pour les startups et c'est pour ça qu'elles n'y vont pas tout de suite. Alors, les budgets des anglo-saxons, c'est carrément hors concours. Des risques, c'est 400 à 500 000 euros par an. Pour avoir une bonne idée des prix, il y a justement aussi un article de Madines qui est sorti, donc le blog consacré aux startups, qui est sorti il y a quelques jours et qui a fait une grille en fait tarifaire justement entre les différentes offres, les différents pays européens, Danemark, Espagne, France, Allemagne, Italie, Pologne, Suède, Royaume-Uni et Pays-Bas, et qui compare les prix. Pour une offre de lancement sur 3 mois, un service de base au mois, et puis un taux horaire consultant junior ou consultant senior. Donc, vous pouvez le consulter sur le site de Madinews, on vous mettra le lien. En gros, l'Italie, la France est dans une fourchette moyenne. Comptez à peu près. Alors, moi, de ma pratique, je vois que c'est plutôt entre 2000, 1800 parfois, 2000. Très cher, les agences les plus chères prennent environ 3600 euros par mois. Donc la moyenne c'est entre 2002 et 2005. Le Royaume-Uni on est plutôt autour de 4000. Voilà, regardez la grille plutôt que de la détailler.
Je la mettrai parce que c'est vachement intéressant quand même. Et c'est bien d'avoir ce benchmark parce qu'on se pose tous la question. Et surtout moi qui ai fait l'exercice de demander des devis. Enfin, ça va de. Enfin, il y a de tout, quoi.
Il y a de tout. Il y a de tout. Absolument.
Du pas cher à du très cher et on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans.
Finalement. Oui, alors on peut toujours leur demander de faire un mini brief. Ils peuvent toujours vous faire une proposition stratégique avant de faire un choix.
D'accord, un mini brief. Ça, ouais. Et ça, tu le demandes systématiquement pour tous les clients, pour tous les fournisseurs.
Oui. Une proposition développée. Ça permet de voir si déjà on va reposer sur le triptyque.
Ouais. Est-ce qu'il y a du répondant?
Est-ce que c'est juste de l'influence? Quels sont leurs outils pour gérer l'influence, etc.
Très bien. Et est-ce qu'on peut faire ce travail tout seul?
En général, oui, dans le monde des startups, comme tu le disais, les fondateurs, ils font ça le soir après le reste du taf. Mmh. Et c'est plutôt bien de le faire et d'y consacrer un petit peu de temps.
Là.
Oui, c'est plutôt bien de le faire. Il faut le faire, on l'a dit. Et même, je te dirais que tant que t'as pas de financement et tant que t'as pas positionné ton discours de marque, ce qui, je le redis, souvent est le cas alors que la marque est déjà lancée.
Ouais.
La marque a déjà fait sa campagne de crowdfunding, mais selon moi, elle a toujours pas de discours de marque.
Ouais.
Sauf à dire qu'elle est transparente et qu'elle fait un circuit court. Donc, dans ces moments-là, il vaut mieux faire son CRP tout seul. Ceci dit, ça prend beaucoup de temps. Il faut trouver l'angle et rédiger le matériel de presse dont on a parlé. Il faut bien maîtriser les aspects techniques du communiqué de presse. Mais bon, si on en a vu plusieurs, on peut écrit bien. On peut prendre un freelance aussi pour rédiger ce matériel. Mmh. Et puis, une fois que t'as les bons outils de base, une bonne base de données de contact, ça prend de moins en moins de temps. Il faut juste être très minutieux. Mmh. Attention, parce que ça peut être une drogue super addictive, la presse. Parce que quand tu commences à voir ta tête dans les magazines, que ta mère t'appelle pour te dire « Ah, je t'ai vu à la télé », machin.
Ouais, c'est bon, ça.
Attention de pas y consacrer trop de temps non plus. Et ça, c'est une erreur courante qui a été soulignée par Jérôme. Se concentrer sur la presse plutôt que sur le produit, voire oublier d'animer sa communauté. Ça arrive. Mmh. Et d'ailleurs, je souligne que souvent, le problème, c'est de se ruer sur des outils plutôt que de construire une stratégie et de dérouler ses objectifs. Comment devient consumer-centrique? C'est certainement pas avec des outils de CRM ou autres. C'est quand on parle aux gens qu'on construit une communauté.
Ouais, c'est clair. Et concrètement,
tu le sens toi avec Réuni d'ailleurs.
C'est hallucinant.
Ouais.
C'est 10 fois plus puissant de parler à ses futures clientes d'aller chercher des. Et à chaque fois que j'ai un article dans la presse, ça me rapporte rien. Alors que parler à tes clientes, tu sens bien qu'il y a un bouche-oreille qui se fait. Alors tu le mesures beaucoup moins bien parce que c'est beaucoup plus comment dire.
C'est un halo.
C'est un espèce de halo. Mmh. Mais tu sens que c'est beaucoup plus puissant et finalement c'est beaucoup plus agréable et je trouve pas mes mots.
Il y a un vrai retour en fait.
Il y a un vrai retour en direct quoi.
Ouais, ouais, exactement.
C'est beaucoup plus gratifiant.
C'est gratifiant. Ça va dans les deux sens. Et on apprend plus, on apprend mieux.
Ah, c'est clair. À quoi ça sert concrètement de faire des RP?
Du coup.
Bah
écoute, il y a 3 aspects pour lesquels c'est vraiment intéressant. Et là, je réponds à ta question sur Bonne Gueule. Premièrement, l'intérêt des investisseurs. Deuxièmement, le recrutement. Et troisièmement, les liens pour le référencement.
Peux-tu détailler ces 3 points?
Je repose
la question. Est-ce que tu peux quand même détailler ces 3 points? L'intérêt des investisseurs, le recrutement et les liens pour le référencement.
Oui, bien sûr. Alors, attirer l'attention des investisseurs, ça c'est de la psychologie de base.
Ouais.
Les gens restent toujours très impressionnés par la presse. Et le secteur du capital risque, ils aiment bien l'effet FOMO. Tu sais, il faut y aller tout de suite. Il y en a un, il y a une petite pépite, boum. Alors, tout le monde veut la voir. Et là, un seul accord peut faire toute la différence. Et donc, les investisseurs, ils regardent tous les signaux. La presse technologique, très important. Ils consultent la presse pour regarder les nouvelles entreprises à rechercher. Mais aussi, ça les rassure sur les intérêts qu'ils portent à certaines entreprises. Ça, Teddy, il avait une expression là-dessus, il me dit « Le travail de l'agence, c'est de rendre la mariée plus jolie. » Et là, ils vont faire un travail de ciblage super précis avec la presse business, du coup. 4 ou 5 supports, super bien identifiés, sur lesquels ils vont essayer d'attirer l'attention sur cette mariée. Alors, en ce qui concerne le recrutement, en fait, ça va t'aider à faire des meilleurs recrutements parce que ça va augmenter ton vivier de talent. Mmh. Parce que tes collaborateurs potentiels, s'ils n'ont jamais entendu parler de toi, ils viendront pas à toi. Mais ça va les rassurer s'ils t'ont vu dans la presse, surtout si c'est une presse de qualité. Et ça va vraiment t'aider à chercher des talents de haut niveau. Ils vont se sentir plus à l'aise de rejoindre ton équipe. Et du coup, le taux de conversion sera plus faible si personne n'a jamais entendu parler de toi. Là, tu peux espérer vraiment avoir un bon vivier. Et puis, dernière idée, c'est que la presse soit utile pour le référencement. Parce que tu sais, le référencement Google, c'est une question d'abord de pertinence, puis une question d'autorité, en fait. Et la question, les liens presse, c'est un excellent moyen d'accroître ton autorité aux yeux des moteurs de recherche. Parce que ce sont des liens d'excellente qualité et que la presse pilote une grosse quantité de liens entrants et de liens sortants. Voilà. Donc, et ça, la qualité du lien, c'est vraiment, vraiment très important. Mmh. Ça fera pas de toi le numéro un, mais ça fait partie de ta stratégie de référencement saine.
Et je rajouterai un truc, c'est que finalement, quand tu interviens sur des tables rondes ou dans les médias, l'accepter, au moins, tu bloques le passage à tes concurrents. Il faut mieux que ce soit toi qui prenne la parole oui. plutôt que quelqu'un
Absolument.
D'autre.
Absolument, vaut mieux y être, ouais, vaut mieux occuper le terrain sans se disperser.
Mais c'est ça, c'est toujours le danger, c'est que ouais. parce que c'est un métier à plein temps. À chaque fois, prendre la parole sur une table ronde ou faire répondre à une interview, ça te prend une demi-journée, et c'est une demi-journée pendant laquelle tu fais pas autre chose, quoi.
C'est ça.
Tu
t'occupes très pas clairement. Du produit. Alors quand la structure, c'est que toi et ton ordinateur, encore une fois, c'est assez compliqué, ouais. mais t'en as vraiment besoin. Donc il faut à toi de trouver la bonne balance. Et puis quand l'entreprise est dans son moment de croisière, quand tu vois Guillaume Gibault ou Pauline Léniaud, par exemple, que nous saluons. Salut. Avec beaucoup d'amitié, ben eux ils ont quand même plus de temps, ils ont des équipes maintenant, ils laissent plus de temps, mais ils le font toujours. Ils le font toujours.
Mais ça devient, ben ouais, mais sauf que tu vois, un Guillaume Gibault, c'est devenu pratiquement son métier, quoi. Même une Pauline, c'est leur métier.
Alors ça serait intéressant de leur poser la question justement.
Ouais. On va les appeler.
Oui, exactement.
Appelons-le.
Appelons-les tout de suite. 06.
On balance son numéro. Est-ce que tu penses que la presse peut être un moteur de croissance?
Alors franchement, tous les experts à qui j'en ai parlé m'ont répondu non. C'est plus un travail de visibilité et un travail qualitatif. Mmh. Comme le dit Teddy, il s'agit de travailler la désirabilité, la notoriété et de donner envie. Je connais quand même deux cas dans ces 10 dernières années où ça a été un moteur de croissance géant. C'est le cas de Twitter et c'est le cas de Uber. Donc voilà, dans le cas de Twitter, en fait les journalistes ont été tellement emballés par le truc, par l'histoire, qui n'ont pas arrêté de raconter l'histoire et du coup les gens se sont inscrits. Ça a été magique. Bon, malheureusement il y avait quand même un faible taux d'activation et c'est pas de la faute de la presse, c'est le produit. Mmh. Et puis après, la croissance d'Uber, en fait, c'est cette histoire en fait de David contre Goliath. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait qualifier d'ailleurs l'histoire de Warby Parker. Ouais. Tu vois, Uber qui arrive, qui apporte une nouvelle solution alors que les taxis, rappelez-vous, avant Uber ce que c'était quand même. Maintenant on les adore à nouveau, mais avant Uber c'était quand même compliqué. Mmh. Mais tous les gouvernements, toutes les villes étaient contre eux. Donc finalement, il y avait quand même une histoire de résistance et tout que les journalistes adoraient raconter. Chouette, ouais. Et dans chaque ville dans laquelle ils arrivaient, hop, ça re-racontait l'histoire. Et là, mais ça peut créer pour répondre à ta question, ça peut créer quand même des pics de trafic, on est bien d'accord. Mais ça va jamais être une croissance sur la durée.
Ouais, c'est marrant, mais tous les gens à qui j'en ai parlé, c'est très rare que ça crée un pic de croissance extraordinaire sur leur site web, quoi. T'as beau passer à la télé, t'as beau passer dans des Combini, des Brutes, etc. C'est Clément de Opal qui me disait ça récemment, que j'ai interviewé il y a quelques semaines. Il
disait, excellente interview d'ailleurs.
Ouais.
Bravo à vous deux. Ouais.
Et t'attends devant l'ordinateur. Bon, il y a pas un gros pic, tu vois.
Non, c'est ça.
C'est hyper décevant. Tu dis putain, j'ai décroché Brut et Combini, ça va être énorme. Et en fait, il se passe pas grand chose.
Ah si, y a ta mère qui est contente.
Ouais, c'est déjà
tes voisins qui te reconnaissent, ta mère qui est contente, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, comme on l'a dit, c'est pas forcément fait pour ça. Mais donc on le constate tous.
Pour conclure, est-ce que tu as des tips à donner à nos auditeurs qui voudraient commencer leur RP tout seul? On commence par quoi?
Ah bon, alors très simplement, on va faire très très basique et très simple. Alors d'abord, pas se perdre, on identifie 10 cibles, pas plus, 10 cibles médiatiques que tu veux atteindre. 10 personnes les plus susceptibles de faire passer le mot sur ta start-up. Une fois que tu les as trouvées, qui ont vraiment être intéressés, tu cherches leur adresse email. Donc tu la trouves en général, c'est simple, tu la trouves sur Twitter ou sur LinkedIn ou dans les ours des magazines. Et puis si tu la trouves pas, tu la cherches sur Hunter. Tu connais Hunter?
J'ai déjà utilisé, ouais.
Voilà.
Hunter.
Et puis après, si tu veux un outil pour gérer de manière très approfondie tes RP, tu peux utiliser BuzzStream ou Just Reach Out, qui sont deux outils très sympas, qui sont gratuits au début, après ils sont payants. Donc pour commencer, c'est bien, mais si tu penses pas y consacrer plus de 2 heures par jour, c'est un peu surdimensionné. Donc ma recommandation, c'est de gérer déjà ses contacts dans une base de données qui soit une base CRM, c'est-à-dire conçue pour fonctionner, pour pouvoir ajouter des commentaires, etc. Et une excellente base de données, c'est Streak. STREAK, elle fonctionne avec Gmail, Donc ça, très facile d'utilisation et très bien pour gérer ses leads.
Et c'est gratuit ?
C'est gratuit.
Trop bien.
Tu trouves ça...
Streak. Ouais. Ouais. Bah, écoute, je vais mettre ça tout
On
suite.
Mettra le lien. Ouais. Et puis aussi, un autre petit tip, tu peux te créer une liste privée sur Twitter. Il y a peu de gens qui utilisent ça. Donc si tu veux savoir comment créer une liste privée sur Twitter, bah tu tapes la question dans ton moteur de recherche et tu verras, c'est extrêmement facile. Et justement, ces journalistes que tu as déjà identifiés ou un petit peu plus, bah tu fais une liste unique où en fait tu vas pouvoir les suivre sans perdre de temps, plusieurs fois, une ou deux fois par jour, regarder. Pourquoi c'est important d'avoir une liste et de regarder ce que font les journalistes sur Twitter? Parce qu'en fait, quand tu vas chercher à les engager, c'est mieux de les connaître. Donc, et puis c'est mieux d'être déjà en conversation avec eux. Et alors, tu as envie de les connaître pour ce qu'ils racontent du point de vue journalistique, mais du point de vue personnel aussi. Par exemple, si tu veux toucher une journaliste de fintech, il se peut que tu découvres dans ses tweets qu'elle est super fan de Star Wars. Et ça va peut-être t'aider à rentrer en contact à trouver la manière de rentrer en contact avec elle. Ou si elle aime les donuts, tu vois, tu pourras lui adresser la parole de manière différente. Donc, c'est très important d'apprendre à connaître les journalistes en tant que personne et faire en sorte que quand tu vas les contacter, tu puisses te démarquer des autres et pas juste leur dire « Ah, j'ai lu ton article, c'était génial, nanana. » Et puis voilà, et faire quelque chose de vraiment enthousiasmant pour les deux personnes. Et puis, le deuxième objectif, c'est que le journaliste, quand tu vas engager la conversation avec lui, il va s'habituer à voir ton nom, en fait, sur tous les sujets. Et s'il voit que tu commentes, tu retweets, etc., tu sais, ça s'appelle du social media, donc faut socialiser, en fait, plutôt que de demander tout le temps aux gens. Créer des liens vraiment sympathiques. Et puis, du coup, au moment où vous aurez envie de désactiver et d'envoyer un mail pour vous présenter, il ne s'agit pas de demander des choses encore, mais dans un premier temps, de vous présenter, de présenter votre activité, ils seront plus susceptibles de lire le courriel, évidemment, et d'y répondre positivement s'ils connaissent déjà votre nom.
C'est encore une histoire d'humain.
Exactement, comme toujours.
Écoute, merci infiniment. C'était hyper riche, comme d'habitude, et on se retrouve dans un mois pour de nouvelles aventures.
Avec plaisir, Adrien.
Salut Viviane,
à très
bientôt.
Vite.
Ciao.
Merci d'avoir écouté le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.